chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
À Versailles, au château et aux rois qui ont fait la France. Chers auditeurs, effectivement, ces émissions sont consacrées à Versailles. J'ai eu le très grand plaisir de faire la connaissance de Mathieu Crézon à l'occasion d'une visite que j'ai faite à Versailles. C'était sur Molière d'ailleurs. Et il m'a fait l'amitié de venir me rejoindre dans nos studios du Rocasse, mais ça n'est que la quatrième fois, mais il y en aura d'autres, n'est-ce pas ? Bonjour Mathieu.
Bonjour Marie-France.
Mathieu Crézon est donc conférencier de la Réunion des musées nationaux, dont le château de Versailles, ce qui nous occupe encore aujourd'hui, puisque nous avons une conversation sur les rois. Nous revenons sur Louis XV, si je puis dire. Oui. Louis XV, qui a quand même été un roi assez extraordinaire pour le rayonnement de la France, des arts, des lettres, grâce aussi à Madame de Pompadour, qui était sa favorite. Mais il avait une vision de la grandeur de la France, peut-être moins exclusive et moins ostentatoire que celle de son arrière-grand-père Louis XIV, mais tout de même.
Et alors effectivement, sur le plan artistique, le style qui est essentiellement associé au règne de Louis XV, donc on le disait tout à l'heure, c'est le style rocaille ou le style rococo. Par simplification, on parle souvent du style Louis XV. Je pense que c'est impropre de parler de style Louis XV.
J'ai vu aussi des commentaires sur des styles régence.
Oui, alors effectivement, on peut distinguer le style régence du style Louis XV, mais il y a notamment une pièce très intéressante à Versailles pour ce qui est de l'évolution du style à la fin du règne de Louis XIV, c'est le Salon de l'œil de bœuf. Donc vous voyez, c'est la pièce qui est attenante à la chambre de parade du roi. C'est une pièce qui a été créée en 1701. La chambre de parade du roi, d'ailleurs, a été créée en 1701 également. Et là, les corniches deviennent beaucoup moins lourdes, beaucoup moins saillantes. Il n'y a plus de lambris de marbre polychrome pour le revêtement des murs. Il n'y a plus de peinture au plafond. Et les lambris de marbre donc sont remplacés par des boiseries qui sont magnifiquement sculptées, peintes et dorées.
Donc c'est un très doré.
Très doré. Donc c'est un style beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élégant, moins ostentatoire que le grand style versaillais Louis XIVien.
Pour ce qui est de dorure, j'ai visité récemment l'appartement de Madame du Barry. Oui. Alors là, elle aimait les dorures. Oui. Elle en voulait partout. Mais c'est vrai que vous avez raison, ça donne une espèce de légèreté qui est tout à fait étonnante. Ça n'est pas pompeux ni ostentatoire, c'est léger.
C'est ça.
C'est raffiné.
C'est
ça. C'est...
Et en fait, ce qu'on ignore souvent, c'est que les prémices du style Louis XV s'observent déjà à la fin du règne de Louis XIV. On commence à se lasser du caractère très, très solennel de ce décor et on souhaite avoir un décor beaucoup plus léger et même plus frivole aussi. Et donc c'est ce qui va conduire à l'apparition du style rococo sous la Régence et puis sous le règne Louis XV. Alors, je pense que c'est une impropriété de parler de style Louis XV parce qu'en fait, sous le règne Louis XV, plutôt vers la fin du règne de Louis XV, eh bien, ce qu'on appelle le style néoclassique est apparu. Style néoclassique, d'ailleurs, qu'on appelle souvent le style Louis XVI. Là encore, je pense que c'est une impropriété.
Et alors, c'est pas seulement parce que les pieds des chaises ne sont plus courbés, mais droites.
Oui, c'est ça. Et là encore, il faut revenir à l'influence décisive de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour avait organisé pour son frère, le marquis de Marigny, un voyage qui a duré 2 ans en Italie. Il est allé d'ailleurs en Italie avec l'architecte Jacques-Germain Soufflot, donc l'architecte notamment de ce qui deviendra le Panthéon, l'église Sainte-Geneviève à Paris. Et donc ce voyage a été organisé pour qu'il puisse voir les monuments de la Rome antique, également les peintures et les sculptures qui avaient été exhumées depuis peu à Herculanum et Pompéi.
Et s'en inspirer.
Voilà, et donc le marquis de Marigny est rentré en France avec plein d'idées dans la tête autour de l'art et de l'architecture antique. Et en 1751, il a été nommé surintendant des bâtiments du roi. Donc c'est à compter de cette nomination que
Gros
le...
poste, hein?
Oui, Colbert, par exemple, avait été aussi surintendant des bâtiments du roi en son temps. Et donc c'est à compter de cette nomination en 1751 que le goût grec se serait introduit en France. Alors, goût grec que l'on peut retrouver, par exemple, dans le jardin anglo-chinois de Marie-Antoinette, hein, par exemple, le petit temple de l'amour, le pavillon du Belvédère, sont des fabriques
C'est ravissant.
voilà, qui témoignent de ce goût grec. Et d'ailleurs, le petit Trianon, qui est souvent associé à Marie-Antoinette, hein, puisque c'était sa demeure, c'est la première fois, je pense, hein, de toute l'histoire de France, qu'une reine de France est propriétaire de son propre domaine.
Elle a son chez elle,
Oui,
où elle peut recevoir à loisir.
oui, même le roi doit demander une permission pour venir voir son épouse. Il ne peut pas se présenter à l'improviste.
C'est
Alors, vous
charmant.
savez, quand Louis XVI devient roi en 1774, peu de temps après son avènement, il lui remet les clés du petit Trianon, qui, je crois, était serti de 531 petits diamants. Et il lui dit, Madame, vous aimez les fleurs, j'ai un bouquet à vous offrir, c'est le petit Trianon.
Alors qu'en fait, ce petit Trianon avait été fait pour une favorite.
Voilà, exactement. C'est pour répondre à la passion du roi pour la botanique que Madame de Pompadour, sa favorite, a eu l'idée, ou plutôt l'a encouragée à passer commande pour la construction d'un petit château qui lui permettrait d'avoir un accès immédiat à ses jardins botaniques.
Et c'est une merveille.
Oui, et d'ailleurs, c'est un excellent exemple de cette transition entre les lignes architecturales de la rocaille et les lignes plus sobres de l'architecture néoclassique. C'est un petit joyau d'architecture néoclassique, d'ailleurs, dû à l'architecte donc Ange-Jacques Gabriel, le premier architecte du roi. Alors par ailleurs, l'architecte de la place de la Concorde.
Oh, mais c'est pas un ange, c'est un archange, Gabriel.
Il a régné en maître hein, sur
Ah oui.
l'architecture
Avec un talent
française
fou.
pendant plus de 30 ans.
C'était
Voilà.
magnifique. Tout ce qu'il a fait est magnifique.
Et il faut savoir que juste à côté du Petit Trianon, il y avait un jardin botanique considérable à l'époque, qui a disparu à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette l'a fait remplacer par son jardin anglo-chinois. Et c'est un jardin qui se composait de quelques 4000 espèces de plantes rares et exotiques. Alors, ce jardin n'a pas complètement disparu. Les plantes ont été envoyées au jardin du roi, c'est-à-dire l'actuel jardin des plantes à Paris.
Et rien n'est resté à Versailles.
Non, et c'était apparemment le plus riche jardin botanique de l'époque en Europe. Alors, tout ce qu'il reste, c'est le petit jardin français qui est de l'autre côté du petit Trianon. Donc, c'est le jardin qui se trouve entre le pavillon français, dû à Gabriel, et également le petit Trianon, de Gabriel.
Et le potager du roi, donc, dans tout ça?
Alors, le potager du roi, oui, il est.
Il est resté
Oui.
sous Louis XVI et...
Il est resté. Alors, il y a aussi la ferme hein, qui a été aménagée à la demande de Marie-Antoinette, un petit peu excentrée par rapport au
Un
hameau.
petit peu plus loin, oui.
Voilà, parce que je pense que Marie-Antoinette ne voulait
Pour
pas
élever ses
être.
moutons.
Oui, il y avait effectivement des élevages de moutons notamment, et je pense que la ferme a été un petit peu excentrée par rapport au hameau, parce que Marie-Antoinette ne voulait pas être incommodée par des
Par
odeurs.
l'état de fumier.
Oui, voilà, c'est ça. Mais le potager du roi, supervisé par la Quintinie, était un peu plus loin. D'ailleurs, on peut encore le visiter aujourd'hui, hein,
C'est
c'est très,
superbe.
très intéressant, oui.
C'est superbe. J'ai eu le très grand plaisir de le visiter un soir où Renaud Capuçon donnait c'était d'ailleurs pendant le Covid, mais ça se faisait à l'extérieur. Et c'était grâce à Valérie Pécresse qui avait organisé cette soirée. Et donc Renaud Capuçon a joué merveilleusement, comme toujours, sous une espèce de petit tréteau. Enfin, il y avait des tréteaux avec une petite toile au-dessus. Et nous étions dans le parc assez disséminés à cause du Covid. C'était extraordinaire. Vraiment un instant magique. Et ce potager est splendide.
Oui, il est très
Splendide. Mais il y
intéressant.
a beaucoup, beaucoup de personnel qui s'en occupent. Ils ont tous un petit uniforme charmant avec des tabliers, c'est superbe.
D'ailleurs, la ville de Versailles, il y a bien sûr le château, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes sur le plan culturel, sur le plan historique et patrimonial, très intéressantes à visiter dans la ville même de Versailles.
Mais ma fille qui a monté un petit, ça s'appelle Favorite Tour, et elle a la deux chevaux de ma grand-mère, une Diane,
ouais.
Dans laquelle elle promène des gens. Elle a 20 sites sur lesquels elle s'arrête. Et qu'elle raconte à ses passagers. C'est assez incroyable. Alors évidemment, il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a beaucoup du Bayotte en ce moment.
Ah,
bon,
oui,
c'est... Mais les gens sont passionnés, effectivement, pas seulement pour le château, mais aussi pour tout Versailles.
Voilà.
Versailles est une ville extraordinaire.
Exactement. Et il y a quelques mois, l'hôtel du Jeu de Paume a rouvert après une période de restauration. L'hôtel Jeu de Paume est quand même un des hauts lieux de notre histoire, avec le fameux serment du Jeu de Paume.
Oui, du 4 août.
Le 4 août, c'est
l'abolition. Le serment.
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le 17 juin 1789, l'Assemblée nationale s'est autoproclamée. Le tiers-État s'est proclamé Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, trois jours plus tard, eh bien, les députés du tiers-État ont trouvé porte close là où ils se rassemblaient habituellement, c'est-à-dire dans l'hôtel des menus plaisirs. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore aujourd'hui le tracé de l'hémicycle qui est encore visible, mais sinon le bâtiment. Actuellement, c'est le centre de musique baroque de Versailles. Et donc, les députés du tiers-État ont cherché un lieu ou pouvoir se rassembler, et ils ont eu la possibilité de se regrouper dans l'hôtel du Jeu de Paume. Et donc le 20 juin 1789, ils ont prêté serment, notamment autour de Sylvain Bailly.
C'était pour donner une constitution à la France.
Voilà, ils ont juré de ne pas se séparer avant de donner à la France une constitution.
Et en fait, ils ont enterré la royauté.
La France était encore une monarchie. Hein, puisque la monarchie sera abolie plus tard avec le massacre notamment des gardes suisses aux Tuileries à Paris en août 1792, et donc la République ensuite sera proclamée en 1792. Mais l'idée c'était de transformer la France en monarchie, non plus en monarchie absolutiste, mais en monarchie constitutionnelle, inspirée par le modèle anglais.
Mathieu, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai toujours pensé que ce que j'avais lu était exact, c'est-à-dire que le massacre des gardes suisses aux Tuileries avait été possible par la population et les comités de salut public de l'époque, enfin je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça, parce que Louis XVI avait interdit aux gardes suisses de riposter.
Alors, c'est possible.
Il devait ne pas tirer sur le peuple.
J'ai pas, j'avoue, d'informations particulières.
Ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, il croyait que ça se passerait bien, quoi. Bien sûr, c'était.
Et
il y croyait encore.
Et Napoléon a assisté au massacre des gardes suisses. Hein. Il était dans l'appartement du frère de Bourrienne, donc son condisciple, et il a été, extraordinairement choqué par ce qu'il a vu. Et je crois qu'à partir de
c'était
là...
C'était un militaire, déjà.
C'était un militaire, mais je crois qu'il a eu très peur à partir de là de ce que la population parisienne était capable de faire. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui l'a marqué durant toute sa vie.
Jusqu'à penser à un moment... Naturellement, chers auditeurs, nous reviendrons sur Napoléon. Ça alors, comme de bien entendu. Mais je me demandais aussi si Napoléon n'avait pas pensé un jour à s'installer à Versailles, à installer son gouvernement et son palais, en fait, à Versailles.
Alors, absolument.
C'était peut-être aussi pour fuir un peu les possibles débordements de la population de Paris.
Oui, et d'ailleurs, il y a une exposition qui a été organisée, je crois, de mémoire, en 2005, sur Napoléon à Versailles. Et notamment Napoléon à Trianon, parce que Napoléon, dans un premier temps, a donné le Grand Trianon, ou du moins une partie du Grand Trianon, à sa mère, Laetitia Romolino, madame mère.
Pourvu que ça dure.
Voilà, pourvu que ça dure. Qui ne s'y est pas du tout plu, elle s'en est plaint.
Des courants d'air, sans doute.
Oui, elle trouvait que c'était pas assez confortable pour elle, je pense.
Et puis elle venait de Corse, alors le climat n'est pas le même, hein, quand même.
Le climat n'est pas le même, c'est certain. Et le petit Trianon. puisqu'on parlait du Petit Trianon tout à l'heure, le Petit Trianon a été donné par Napoléon à sa sœur préférée, Pauline Borghèse, qui a vécu avec son époux Camille Borghèse. Napoléon voulait également s'installer à Versailles initialement. Il a même commandé des projets pour un nouveau décor à Versailles. Et finalement, il n'a pas donné suite à son projet. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1810, quand il s'est donc remarié avec une petite nièce de Marie-Antoinette, donc également une archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, eh bien, il a rénové notamment le hameau de la Reine. Et d'ailleurs, quand on a restauré le hameau de la Reine, on a pris la décision de le remeubler, de le restaurer tel qu'il était à peu près en 1810.
Avec des meubles Empire.
Avec donc. Du mobilier Empire, effectivement, notamment signé Jacob des Maltaires.
Et des soies jaunes pour recouvrir les, voilà. Les fauteuils sont magnifiques. C'est superbe. C'est assez étrange d'ailleurs parce qu'effectivement, quand on arrive au Petit Trianon, on se dit nous arrivons dans le domaine de Marie-Antoinette. Et Virginie me disait justement que tous les gens qui venaient à Versailles, enfin beaucoup, beaucoup de visiteurs, sont fascinés par la reine. Oui. Comme c'est. Versailles, c'est non seulement d'abord peut-être Louis XIV, mais surtout aussi Marie-Antoinette.
Oui, et d'ailleurs. C'est l'impératrice Eugénie qui a fait du Petit Trianon un musée à partir de 1867 consacré au souvenir de la reine. Elle a organisé la première exposition jamais conçue en l'honneur de Marie-Antoinette.
Donc. Très sympathique personnage également, l'impératrice.
Oui, mais il faut dire aussi que bien avant encore, sous la Révolution française, gouverneur Maurice, qui était l'ambassadeur des États-Unis en France, a énormément admiré le courage de la reine durant cette période. Et il a même, alors à ses risques et périls, il a cherché à monter une armée pour faire libérer la famille royale. Donc il n'a pas réussi à le faire.
Ah, il n'y avait pas que Monsieur de Fersennes qui se préoccupait de leur sort, donc.
Oui, et quelques jours, je pense, après la mort de Marie-Antoinette, il a envoyé une lettre au président des États-Unis, George Washington, pour l'informer de la situation et pour perpétuer le souvenir de la reine, il a fait l'acquisition d'une partie de son mobilier. Donc si vous faites la visite des appartements privés de Marie-Antoinette, je crois qu'actuellement la salle est fermée, mais normalement on visite, juste à côté de sa petite salle à manger, la salle de billard. Et dans la salle de billard, il y a du très beau mobilier, avec des soieries absolument magnifiques. D'ailleurs, c'était les soieries qui se trouvaient initialement dans ce qu'on appelle le cabinet doré de la reine. Alors, toutes les soirées ont été retissées à Lyon, mais il y a encore au moins un fauteuil, je crois. Je ne me rappelle plus si c'est un fauteuil ou un canapé, mais en tout cas, il y a voilà, un siège que l'on peut voir au Metropolitan Museum de New York. Et pourquoi ? C'est parce que gouverneur Maurice a fait l'acquisition de ce mobilier et l'a fait envoyer dans sa propriété familiale à Morrisania, qui était au nord de New York.
Donc c'était d'ailleurs très prudent parce que tout pouvait arriver. On pouvait le brûler.
Oui, et puis c'est l'époque où le mobilier versaillais était vendu aux enchères. Donc il l'a acquis pour justement que ce mobilier ne soit pas dispersé.
Il y en a aussi beaucoup en Angleterre.
Il y en a en Angleterre, voilà, beaucoup aux États-Unis aussi. Et grâce en particulier à la société. Alors, il y a la Société des Amis de Versailles, mais aussi les American Friends of Versailles.
Ils sont extrêmement actifs, très fortunés et vraiment plein de bienveillance pour la France et le château de Versailles. On peut dire qu'ils font ce qu'il faut.
Hein. C'est vrai que les Américains, depuis longtemps, ont été des donateurs généreux, à commencer par John Rockefeller Jr., qui a fait un chèque $1 million à l'époque. C'était une somme vraiment colossale. Il était amoureux de l'art et de l'architecture en France. Il a donné une somme colossale pour faire restaurer le château de Versailles, le château de Fontainebleau et la cathédrale de Reims.
Thank you.
Tout ça. Et sans les mécènes, Versailles n'existerait plus. Je pense même les mécènes actuellement. Quelques noms me viennent à l'esprit, comme Vinci, le groupe Vinci, oui, qui est extrêmement généreux. Il y en a d'autres. Vous en connaissez d'autres, des mécènes qui
ont... Si vous faites la visite de l'Opéra Royal de Versailles, vous passez dans une galerie de pierre qui faisait partie du musée de l'histoire
vous
de France.
Vous nous avez emmené dans l'Opéra, voilà, avec le groupe.
Exactement.
Le jour où j'ai fait votre connaissance, cher Mathieu.
Absolument, absolument. C'est la galerie qui permet aussi d'accéder aux salles de l'exposition, dernièrement l'exposition Louis XV. Et sur la gauche, donc, on voit des statues 19e qui représentent des rois et reines de France, depuis l'époque mérovingienne. Et on voit également apparaître par ordre chronologique les noms des bienfaiteurs, des mécènes du château de Versailles. Donc depuis 1837, depuis que Versailles a été converti par Louis-Philippe en musée d'histoire de France, c'est vrai qu'il y en a énormément, donc c'est une très bonne chose. Et même on a vu des Français, par exemple, après cette dotation très généreuse de Rockefeller, beaucoup de Français ont fait des petits chèques pour...
Mais les petits chèques font les grandes rivières.
Exactement, exactement, parce que l'état du château de Versailles à l'époque était assez déplorable. Bon, et qui plus est, le château de Versailles était vide. Il a été vide pendant une grande partie du XXe siècle et c'est dans les années 1950 et 60 que le conservateur en chef du château de Versailles, Gérald van der Kemp, va avoir l'idée de remeubler le
château.
Encore
un amoureux de Marie-Antoinette.
Oui, absolument. Quelqu'un qui a aussi écrit sur Marie-Antoinette un texte très intéressant, c'était Pierre de Nolhac.
Ah, j'ai son livre, j'ai son petit livre. C'est une déclaration d'amour à toutes les pages.
Oui, oui.
C'est très émouvant. Je trouve qu'il est... certainement de parti pris, mais il a eu un véritable coup de foudre pour la reine.
Oui. Mais alors, il y a aussi une chose qui me vient à l'esprit, c'est que...
Et Pierre de Nolhac, pardon Mathieu, je vous interromps, mais Pierre de Nolhac faisait partie de l'Académie française.
Absolument, c'était un très grand écrivain. Mais Versailles, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Versailles aurait pu disparaître. Déjà sous la Révolution française, il y a eu des appels pour venir comme en pèlerinage républicain fouler aux pieds les débris de la monarchie à terre. Il y a des journaux républicains extrémistes qui appelaient à venir démolir Versailles. Bon, l'appel n'a pas été suivi d'effet, heureusement.
C'était tout à fait possible, parce que c'est ce qui est arrivé aux Tuileries.
Oui, beaucoup de châteaux d'anciennes demeures royales françaises ont été très sévèrement mutilés ou même ont été complètement détruites. Et ça aurait pu arriver à Versailles. Alors, Versailles, effectivement, n'a pas été démoli. Il y a juste quelques dépendances du château, comme la ménagerie, par exemple, de Versailles, qui a été détruite. Mais les deux trianons sont restés, ce qui relève presque du miracle. On aurait pu complètement transformer les jardins d'André Le Nôtre. Sous la Révolution française, l'idée, c'était d'en faire une sorte de damier égalitaire, de manière à permettre à chaque citoyen d'avoir sa propre parcelle.
Un jardin participatif.
Oui, on aurait transformé les jardins de Le Nôtre en champs de patates et en culture légumière.
Ma foi.
Et même Napoléon. Même Napoléon, alors je ne me rappelle plus s'il l'a dit à Lascaz ou au général Bertrand, mais il aurait dit qu'il regrettait que Versailles n'ait pas été détruit. Je pense qu'en fait, le rêve de Napoléon, c'était de napoléoniser Versailles. Et il a dû s'apercevoir...
Il a fait des plans, d'ailleurs, là-dessus.
Oui, 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 absolument.
Il y a avec des colonnades grecques...
Exactement.
La suppression du petit château, de la cour de marbre...
Exactement. Et je pense que... C'est pas moi qui le dis, c'est le grand historien Louis Réau, dans son Histoire du vandalisme. C'est un livre incroyable. Vous sortez de cette lecture complètement accablé. Parce que vous vous rendez compte que le nombre de monuments exceptionnels de l'art français détruits excède peut-être le nombre de grands monuments qui restent encore aujourd'hui. Alors, la France a un patrimoine artistique et architectural considérable.
Des milliers de châteaux.
Mais il rapporte cette idée que peut-être que en fait, Napoléon aurait refusé finalement de vivre à Versailles parce qu'il s'est aperçu qu'il ne pourrait jamais éclipser le souvenir du roi Soleil. Il aurait été en quelque sorte considéré...
Son ombre l'écrasait, de toute
façon.
Voilà,
il aurait été vu un petit peu comme l'hôte de Louis XIV.
Et ça, c'était pas faux.
Son ego ne lui aurait pas permis d'accepter cette situation.
Je le comprends un peu. C'est sur cette note plutôt optimiste, Mathieu, qui nous fait découvrir quand même encore maintenant beaucoup de patrimoine encore vivant, bien que beaucoup de monuments soient en péril.
Oui.
Espérons que grâce à Stéphane Bern et à sa Fondation pour le patrimoine, quelques monuments vont être sauvés, en tout cas restaurés de belle façon. C'est dommage d'en avoir perdu autant, mais bon, il faut se réjouir de tout ce qui nous reste.
Oui, c'est, d'ailleurs, une partie de ce patrimoine a disparu parfois du fait de certains préjugés propres à telle ou telle époque. Par exemple, à l'époque de Napoléon, il y avait un fort préjugé anti-gothique. La tour Saint-Jacques, hein, par exemple, à Paris, a été épargnée parce que...
Elle est toujours là.
Elle est toujours là, mais c'était une très belle église initialement, Saint-Jacques de la Boucherie. Et donc on a réussi à en conserver une tour.
À sauver la tour.
Parce qu'on a, fait comprendre qu'on pouvait l'utiliser comme tour de guet pour les pompiers. Mais il y avait un architecte de l'époque, Petit Radel, qui avait conçu une méthode pour démolir une église gothique en un quart d'heure, je crois.
Mais ouais. Bien sûr. Bon, oublions tout ça. En tout cas, vous nous en reparlerez quand vous reviendrez dans notre bonne ville.
Avec grand plaisir.
À bientôt, Mathieu.
À bientôt, Marie-France.
Et merci à Roland Richard qui a enregistré cette émission et qui la réalisera pour vous dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel. Au revoir. Thank you.